Lys d'or, Philippe Soler, c'est votre nouveau roman, qui se présente comme un roman très romanesque au début, puisqu'il y a une histoire qui est celle d'un professeur, qui est le personnage principal, qui est le narrateur, qui est un professeur de chinois. Il a de nombreuses admiratrices parmi ses élèves. Ça me fait penser à cette phrase, c'est Mauriac qui vous avait dit ça quand vous avez publié Une curieuse solitude, c'était en 59, quelque chose comme ça. C'est Mauriac ou Aragon qui vous avait célébré tous les deux? C'est Mauriac, oui. Je crois, qui vous a dit l'important petit, tu sais, c'est de plaire aux femmes.
Ça, c'est Aragon.
C'est Aragon.
Oui, c'est ça, oui, c'est ça.
Alors donc, on trouve ce narrateur, donc professeur de chinois, 40 ans, qui plaît aux femmes. Cela dit, il a aussi une vie normale, disons. Il a une épouse avec un enfant, il a une maîtresse, et puis il y a l'héroïne. Alors, cette héroïne, elle est jeune, elle est riche, elle est belle, il la rencontre par hasard, il devient tout de suite amoureux d'elle. Elle se refuse, mais elle lui demande d'écrire, en le payant, l'histoire de leur relation et l'histoire de sa vie. Donc, on remarque des éléments romanesques extrêmement classiques, avec quand même une relation particulière, c'est celle du héros et de l'héroïne, où toute cette histoire va devenir une histoire de mots, en fin de compte. Et puis alors, les éléments qu'il faut bien mettre en évidence et qui montrent que dans ce roman, qui est un roman romanesque, il y a aussi beaucoup d'autres choses, et peut-être... moi, j'ai eu le sentiment que c'était aussi une certaine réflexion, enfin, une question que vous étiez posée, comment fait-on pour écrire un roman en 1989. Alors, il y a les trois éléments principaux, il y a l'argent, le sexe et les mots.
Oui.
Et
sujets éternels, oui.
Il y a une espèce de lutte qui s'engage tout à fait au début du roman et qui se poursuit tout au long du roman entre le sexe et les mots.
Mmh. Absolument. C'est un livre qui repose sur un contrat très particulier, puisque la femme dont le narrateur est amoureux lui propose donc, par un contrat, qui est aussi un contrat de la narration, d'écrire l'histoire de sa vie, l'histoire de leur relation au fur et à mesure qu'elles vont se développer. Donc, pas de sexe, mais je paye, dit-elle, pour que tu racontes, pour que vous racontiez. Et puis, petit à petit, le rapport de force qui s'engage, c'est qu'au fur et à mesure qu'il va raconter, il va essayer, par sa narration même, par ce qu'il raconte, de la séduire, de l'amener quand même à céder sur le plan physique. Va-t-il y arriver ou pas? C'est ça le suspense du roman. Et donc, pour cela, il va disposer un certain nombre de confidences. Il va lui proposer des mises en scène un peu particulières, libertines. Elle refuse, puis elle accepte, etc. Et ça va finir par basculer. Donc, c'est l'histoire d'un rapport de force qui bascule au fur et à mesure de la narration. Oui. Au début, le narrateur a l'air d'être tout à fait comme un amoureux transi, au fond, comme dans la rhétorique courtoise. Et tous les éléments de la poésie courtoise sont ouais, là, l'île, ouais, etc. Il est isolé. Bon, et puis petit à petit, le libertinage va reprendre le dessus. Alors on passe, si vous voulez, d'une narration style Princesse de Clèves à une narration plus la clou, liaison dangereuse. Voilà, ça se mais fait comme ça.
La rhétorique courtoise, avec cette différence dans le langage, c'est la place de l'obscénité. C'est-à-dire que l'obscénité, dès le départ, fonctionne, dites-vous, comme lucidité, puisque le personnage dit « dans tout discours, il y a un mensonge ». Alors c'est peut-être là le professeur de chinois qui parle et qui rêve justement d'une langue transparente. Il utilise, dit-il, l'obscénité, c'est-à-dire que lorsqu'il parle de l'amour, il utilise les oui, mots, il dit « baiser », etc., constamment, comme
oui,
il dirait.
Cette
obscénité, pour lui, est une espèce de moyen, justement, d'arriver à la lucidité.
Je crois que toute la tradition occidentale est quelque chose qui repose sur une illusion, sur une mauvaise appréciation des questions sexuelles. Hein, on retrouve ça partout, dans la religion, dans la névrose généralisée. Ça n'est pas par hasard si je le fais professeur des Chinois, spécialiste du taoïsme, car à ses yeux, c'est sa vision du monde, la sexualité, les fleurs, les oiseaux, etc., c'est exactement mis sur le même plan, hein, comme dans des valeurs plastiques. Ça exactement. Bon. Ce qui n'est pas le cas de sa destinataire, qui au contraire appartient à cette tradition du mensonge sexuel qui recouvre absolument toute notre histoire. Et est-ce qu'on peut en sortir de ce mensonge ou pas? C'est un des traits du roman, je crois.
Oui, alors le roman quand même évolue. On parlera tout à l'heure des personnages et de la psychologie, mais justement dans cette manière d'aborder l'obscénité, de nommer l'innommable, c'est-à-dire que lorsque l'on est dans les sentiments, dans le monde des sentiments, c'est-à-dire que lorsqu'il n'y a encore rien eu entre le héros et l'héroïne, Chine, l'obscénité est facile à utiliser. Mais vers la fin, par exemple, quand vous abordez le thème de la sodomie, les choses se modifient complètement. Parce que là, donc, il y a eu ces rapports entre le héros et l'héroïne, et vous dites, on est bien obligé d'inventer des mots quand la sensation est vivante. C'est-à-dire c'est qu'on ça. Est passé des sentiments que l'on peut décrire à la sensation, et dans le cas de la sensation, il faut d'autres mots, justement.
Oui, justement, c'est pour ça que ce n'est pas du tout un livre pornographique, mais il s'agit de trouver des métaphores qui correspondent à l'acte amoureux. Et là, au fur et à mesure que le récit fonctionne, de plus en plus ces métaphores, il s'agit de trouver les bons mots, les mots, d'inventer presque les mots. Par exemple, à la fin, il y a toute une série de mots qui sont donnés comme étant l'équivalent
de la sodomie. Voilà. Oui. Et le roman se termine là-dessus.
Oui, parce que si on dit sodomie, vous comprenez
Si on dit d'une manière obscène, ça n'a pas non plus
C'est pour ça que c'est un roman, c'est-à-dire que vous savez très bien que la sexualité se vit avec des mots différents et dans des situations différentes pour chacun, pour chaque personne privée. Il faut trouver pour un acte précis, fait dans des circonstances précises, les mots, les seuls mots qui conviennent avec leur sonorité, leur échauffement à cet acte-là.
Et alors le roman ne se termine pas sur les péripéties, puisque le jeu des péripéties reste ouvert, il se termine justement sur cette analyse du vocabulaire, enfin sur une page, enfin une demi-page de linguistique.
Il se termine par le fait que le narrateur dit quels sont les mots qui correspondent à ce moment.
Les mots ont rejoint le sexe et le roman est terminé.
Voilà. C'est ça. Il est suspendu à la fin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conclusion.
Non, il n'est pas terminé, justement.
Josiane,
vous le dites à un moment donné. Enfin, votre personnage, Simon Rouvray, le dit. Je vous offre, finalement, en écrivant, les délices de la castration. Et vous offrez, effectivement, au lecteur...
Il ne le dit pas comme ça.
Ce livre non terminé, puisque le cinquième chapitre qui était prévu au départ...
Sixième,
je veux dire. Le sixième était prévu, puisque ce sont les six pétales du Ulysse, et finalement, elle nous passe sous le nez. Et donc, sûrement un roman de la castration, mais castration aussi de l'écriture, parce que cette recherche précisément de la métaphore est peut-être une sorte d'impuissance, devant le mot, devant cette femme, sans doute extrêmement virile, puisqu'elle est le symbole, donc le lys est le symbole donc, de cette femme. On ne saura jamais exactement, d'ailleurs, si le lys est le symbole masculin ou le symbole féminin.
Bah, c'est tout le problème.
Mais je reste convaincue que c'est le roman de la castration. J'ai cru comprendre aussi qu'il s'agissait de la substitution de la baise, comme vous dites, par le roman, mais ce n'est pas le cas, puisque ce roman est déjà écrit. Quand il est écrit, je veux dire, les rapports physiques ont déjà eu lieu avec
Vous remarquez quand même que la conclusion, il s'agit d'un contrat. Elle le paye pour qu'il raconte. Ils se sont rencontrés alors qu'elle achetait ce lys chez un antiquaire qui n'avait pas, lui, les moyens de s'offrir. Elle achète ce lys. Ce lys va courir pendant toute la narration. C'est le symbole de beaucoup de choses, le lys. En effet, c'est pas par hasard si les fleurs ont cette connotation sexuelle, etc. Donc, l'orchidée d'Oriane de Guermantes, par exemple. Etc. Donc voilà, et d'autre part évidemment c'est un symbole très fort quand on est en France et en français on sait très bien ce qu'évoquent les quand on disait les lys, ça voulait dire la France. D'autre part évidemment,
sans compter que le blason de la maison de France, le lys représente un phallus et des testicules. Bon, c'est...
Voilà, si vous voulez. Ensuite on peut quand même tout simplement dire, parce que c'est un livre très simple où les symboles affluent en même temps que la narration se fait de façon très physique. On peut aussi remarquer que dans toutes les, c'est le symbole de l'Annonciation. Dieu sait s'il y a des peintures et des peintures et des peintures qui nous représentent un charmant archange avec son lys à la main qui est censé être le messager d'une procréation invisible qui touche la dame là, qui l'écoute, qui est censé « Je vous salue, Marie », etc. Bon. Donc c'est aussi une analyse de tous ces, de toutes fourmillant, de tous ces fantasmes religieux. Hein. Bon. Mais à la fin, vous avez remarqué que si en effet il y a une interruption, c'est soit ils sont d'accord pour arrêter là le contrat, hein, soit ils ont rompu, soit... Mais il y a quand même une précision, c'est qu'elle lui a donné le lys d'or. Oui. Par conséquent, il faut bien considérer que, sans que quelque chose soit dit, il est quand même arrivé à un certain résultat. C'est une castration rémunérée, si vous voulez.
Oui, et du point de vue de ce jeu sur le sexe et le langage, à un moment, il est par les questions, enfin, pas seulement à un moment, mais enfin, à plusieurs reprises, mais en particulier à un moment, les questions de la Vierge Marie, bien sûr, et du fantasme de cet engrossement par la parole.
Oui, précisons que Marie est le nom de la femme.
Mais, oui, mais laissez-moi finir, justement. et il me semble, donc ce personnage de la Vierge Marie, moi, me semble tout à fait au centre du livre, parce qu'on a parlé des différentes femmes. Il y a l'épouse du narrateur qui s'appelle Marie, et c'est sans doute pas un hasard. Et j'ai été tout à fait frappée, moi, par l'importance du thème de la maternité dans ce livre. D'ailleurs, le narrateur ne cesse de parler de la maternité possible de cette femme avec laquelle il a un contrat. Et puis, il y a le personnage de l'enfant, du fils, qui me semble en arrière-plan apparemment, mais peut-être être un des plus importants du livre.
Par exemple, il lui dit, est-ce que vous êtes sûr qu'au lieu de que je vous écrive un livre pour vous seul, hein, parce qu'en principe, le livre, c'est un bien propre qu'elle achète. Bon. Est-ce que vous êtes sûr que vous ne préférez pas un enfant à un livre, hein? Il lui pose tout le temps cette question. Et la suspension de la sixième partie, vous pourriez très bien imaginer qu'après tout, c'est sur ce problème de la grossesse que le livre se suspend et ne dit plus rien. C'est la chute des livres. Au fond, dans la tradition courtoise, on meurt. Hein? Tristan, on se retrouve par-delà la mort. Dans la tradition libertine, 18e, parce que la morale est là, on est puni. Madame de Merteuil est punie, Don Juan est puni à la fin de Mozart. On meurt ou on est puni. Là, personne ne meurt, personne n'est puni. Il y a peut-être, mais si j'avais insisté là-dessus, ça aurait été une gaffe esthétique, il y a peut-être un enfant en cours. Hein. Donc elle se marie pendant le livre, elle va se marier, etc. Mais peut-être qu'elle a eu envie de faire un enfant avec quelqu'un d'autre. Ce sont des questions, je crois, très actuelles, et d'autant plus que, comme vous savez maintenant, que la gynécologie et la biologie agissent là-dessus, on aura de plus en plus accès, je crois, à l'analyse des fantasmes qui vont persister malgré ce déluge de biologie. Songez par exemple à ces malheureux sextuplés fabriqués par erreur. Hein, on stimule une femme, mais c'est effrayant quand même. Il faut personne n'en parle. On stimule une femme d'enfant. De façon artificielle, on lui fait avoir 10 embryons, on en supprime 4 parce que ça fait trop, on en garde 6 qui vont d'ailleurs être. On fait un sondage à la télévision, on demande est-ce que ces enfants seront bien élevés d'après vous. Accord massif, il y a 63% de gens qui disent mais oui, donc vive la vie, vive tout ça. Donc nous sommes dans une époque très précise de fabrication industrielle des corps. Ce roman, de façon très symbolique, et c'est là peut-être où vous voyez une castration, mais c'est simplement l'envers de cette époque de effrayante que nous vivons. Donc là, il y a une proposition de retrouver quand même le sens de cette affaire.
Enfin, cette histoire de la Vierge Marie quand même déborde parce que moi ça m'a fait penser d'ailleurs à une phrase.
Il y a un tableau énorme, magnifique là de Signorelli que j'analyse en cours du livre, en essayant de montrer ce que ça veut dire. Je crois que je le montre.
Une thématique de la pureté quand même dans ce livre qui parle de sexe.
Ce livre aussi impur et très pur.
Oui, enfin il y a plusieurs phrases. Dans ce carnet de nuit qui est publié par ailleurs, vous dites un moment candide comme poulet pervers ou à propos de cette femme, vous êtes une salope, une salope même, c'est-à-dire quelqu'un de très pur. Oui. Et il me semble que c'est quand même sinon le fantasme ou en tout cas la représentation imaginaire peut-être dominante de ce livre. Moi qui m'a semblé être aussi un livre de la perversion comme quête de la chasteté ou le contraire, enfin, oui, mais...
Je crois que il y a une pureté dans le vice, que la vertu... Il y a une phrase, puisque nous allons parler de Céline tout à l'heure, il dit cette chose extraordinaire à un moment donné, « À chaque vertu, sa littérature immonde. » Eh bien, à chaque vice pensée, sa littérature peut être sublime.
Gilles Gourdon.
Oui, moi ce qui m'intéresse plus particulièrement c'est la thématique du lys dont on parlait tout à l'heure, parce que justement à propos de cette castration, je pense pas du tout qu'il s'agisse à proprement parler de castration, mais plutôt de rétention sexuelle. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui court à travers tout le roman, c'est ce secret de la fleur d'or, qui est un traité d'alchimie taoïste qui a été publié il y a quelques années avec une remarquable préface de Jung. Et en fait, effectivement, l'ambivalence sexuelle de la fleur, du lys, qui est à la fois verge et vase, émetteur et récepteur, et celle même de la relation qui s'établit entre les deux personnages, l'homme étant d'une certaine manière féminisé par rapport à sa compagne. De même que lors de l'intronisation d'un nouvel empereur du Japon, c'est quelque chose d'assez semblable, il s'identifie à Amaterasu, la déesse du soleil, qui est son ancêtre, pour s'accoupler avec tous les kami, les génies de l'archipel japonais, afin de s'engendrer lui-même. Donc il y a effectivement tout ce thème taoïste.
Oriental, oui.
Voilà, mais qui est d'autant plus intéressant par rapport à votre propre évolution du maoïsme, qui est d'une certaine manière une sorte de confucianisme hystérique, à ce taoïsme qui est une vision beaucoup plus métaphysique, ésotérique et alchimique des choses. Alors effectivement, le lys, c'est en même temps cette chose qui est doublement sexuée. À côté de ça, puisqu'on parlait d'obscénité tout à l'heure, me semble-t-il, et pour reprendre une terminologie qui vous est chère, je pense que le livre est plutôt du côté de l'anus en croix que du trou sans bord.
Espérons que les auditeurs s'y retrouveront.
Vous avez compris ce à quoi je faisais allusion.
Alors, mais certainement, cher monsieur. Comment ne pas vous comprendre. Cela dit, pour rester un peu plus peut-être terre à terre, le livre est en effet pose la question de la maîtrise physique. C'est-à-dire que ce n'est pas en effet par hasard si un certain nombre de poèmes chinois sont repris. Et vous savez qu'à travers Lao Tzu en premier, bien sûr, que je rêvais de traduire depuis très longtemps. Et vous savez pourquoi ? Parce que le Tao Te Ching, et ça personne n'en parle, est aussi un traité sexuel caché. Et que donc là où les pères jésuites et d'autres traducteurs traduisent pudiquement, par exemple, par essence, en chinois, c'est tout simplement. Il est toujours question de sperme. Et d'ailleurs, le caractère chinois pour sperme est très beau, c'est le riz bleu. Hein. Donc, la Chine, pour moi, est le pays où ces choses qui nous paraissent toujours, on a ri tout à l'heure à votre allusion, donc nous sommes toujours un peu trop excitables sur cette question, un peu trop dedans, hein, ou trop dehors. Mon héroïne semble dehors alors qu'elle est tout à fait dedans, mais d'une façon qui l'affecte. Donc c'est un traité pour essayer de décrire toutes ces choses-là comme si nous étions plus chinois que marqués en effet par cet énorme refoulement dramatique que nous avons vécu pendant tant d'années.
Oui, non, moi je crois que c'est effectivement les choses les plus étonnantes du livre, enfin, sont les choses chinoises et sont les choses, je dirais, mi-chinoises, mi-île de Ré. Enfin, c'est-à-dire que c'est le. Enfin,
c'est une île, hein, oui, elle n'est pas spécifique.
Je dis l'île de Ré.
Il fallait une île, vous savez pourquoi ? Parce que c'est l'Irlande dans la rhétorique courtoise. Donc il se trouve, en effet, j'ai une maison à l'île de Ré, bon, ça me donne un lieu d'observation. Mais enfin, c'est une île dans le roman, et l'île est très symbolique.
C'est une île, mais enfin, c'est vrai que, bon, dans Théorie des exceptions, par exemple, vous aviez publié un texte sur l'île de Ré, et je veux dire, on retrouve là quand même quelque chose d'assez proche. Bon, ça me semble tout à fait effectivement les choses les plus étonnantes, ces passages où le narrateur est seul, enfin dans cette maison, et où d'une certaine façon effectivement il atteint quelque chose, enfin de cette maîtrise chinoise. Et ce qui m'a frappé dans justement à ce propos, c'est que c'est peut-être le livre de, enfin cette maîtrise me semble constamment conquise, à la différence de vos précédents romans, conquise par le narrateur sur quelque chose qui apparaît beaucoup plus et qui est peut-être la mélancolie et la mort. C'est-à-dire le livre, on n'a pas dit assez que le livre commence sur des rêves de mort, enfin sur un paquet enfoui, sur un accident d'un enfant, etc. Et le livre, enfin la maîtrise doit affronter beaucoup plus, doit se reconquérir beaucoup plus, et cette maîtrise donc inspirée des Chinois, avec cette façon dont vous tissez les textes chinois constamment traduits, et puis quasiment les mouettes et la mer, enfin, et l'île et la maison et les volets et tout ça, enfin bon, cette maîtrise est constamment conquise, beaucoup plus, je dis ça parce que comme tout le monde, avant d'avoir lu ce livre, j'ai lu 40 articles qui m'expliquaient que Soler c'est toujours pareil, etc. Et là, bon, c'est pas du tout pareil, mais pas du tout du tout, bon, il y avait une présence très forte dans le cœur absolu de la maladie, par exemple. Bon. Et là, il y a une présence de la mort qui est toujours sur le bord.
Oui, mais c'est très différent, Diane. Effectivement, parce que dans les romans de Philippe Sollers, en général, il est un homme que les femmes aiment bien et auquel elles succombent très vite. Or là, s'il y a maîtrise, c'est précisément parce qu'il s'agit d'une histoire d'amour qui ne peut pas avoir lieu parce que Reine n'aime pas Simon. Donc la maîtrise maîtrise, effectivement, c'est tout le roman, mais en même temps, il n'y a pas de travail de maîtrise, il y a simplement cette volonté de forcer un désir dans sa négativité.
Voilà. Il y a un androgyne, en fait, surtout. Il y a essentiellement, me semble-t-il, un désir d'androgyne, là-bas. Et en fait, les deux personnages, d'une certaine manière, n'en font qu'un, sont le miroir l'un de l'autre. Voilà, c'est comme ça qu'on peut voir...
Non, vous avez dit quelque chose. Oui, c'est vrai, mais vous avez dit quelque chose. Forcer un désir dans sa négativité, je crois que c'est un livre nouveau parce que j'y traite de la résistance féminine, que je crois radicale en général et qui est masquée par les effets sociaux. Les précédents romans, ce sont des romans accélérés, casanovistes, si vous voulez.
Oui,
c'est-à-dire, c'est des romans d'aventure. Là, oui. Je traite de la résistance et donc c'est un sujet...
Pour une fois, vous parlez véritablement de la perversion, c'est-à-dire pour une fois, en effet, la vertu est une promesse, et on le sent très bien, est une promesse d'une perversion extraordinaire. Quand Rennes vous dit, bien écoutez, venez me voir, j'ai envie de faire des choses pas très bien. Vous expliquez très bien, précisément, que si elle ne dit pas des saloperies, c'est parce que ce serait gâcher déjà les choses. Ouais, donc derrière, vous le dites d'ailleurs, le conformisme n'est pas où on le croit, la perversité n'est pas où on la croit.
Absolument. La retenue est l'annonce de quelque chose d'encore plus tordu que l'acceptation facile.
Kadoun, Roger.
Je suis un peu abasourdi, évidemment, par la masse encyclopédique des références et des intentions prêtées, données généreusement à Philippe Solers. De tout ce qui vient d'être dit, je crois que je n'ai à peu près rien lu dans le livre de Solers.
Ah, bon, très bien.
J'ai retenu quelques phrases extrêmement intéressantes. Au début, je voulais intervenir par un seul mot, bof, avec toute la polysémie du mot bof, notamment dans Le Canard enchaîné. Et puis, je garde une règle qui est, quand j'ai affaire à un livre qui est relativement délibéré, c'est-à-dire fait avec beaucoup d'intention, une grande abondance d'intention, à quelques moments, il y a quelque chose qui perce et qui est comme une note sournoise de vérité que, masochiquement, l'écrivain s'attribue. Page 167, on dit à Simon, c'est joliment dit d'ailleurs, c'est Simon en anglais, Simon, que j'aime beaucoup d'ailleurs,
«
Qu'est-ce que vous êtes, vieux jeu ?» Alors, cette formule m'a alerté, et je me dis, Solers, c'est devant lui-même, il se regarde et il dit, qu'est-ce que je suis, vieux jeu ? Alors,
maintenant,
en quoi est-il vieux jeu ?
Donnez le contexte.
Il est vieux jeu en ce que,
lui
qui fait tellement de références à Joyce, c'est-à-dire à un maître de l'écriture, comme l'est d'ailleurs, on le verra, Céline, je me demande si, d'une certaine façon, par une sorte de perversité langagière profonde, il ne passe pas de Ulysse au Lys. Le Lys qui, comme Jacques Duchâteau d'ailleurs l'a admirablement dit au début dans un lapsus merveilleux, date de 1789. Donc un livre de 1789, c'est-à-dire un livre archaïque. Et je crois que c'est la sonorité que je reçois de cet ouvrage.
Bien,
alors, je peux le dire avec d'autant plus d'aisance que la pointe que je vous lance ne peut pas vous frapper compte tenu de la barricade de médias qu'il y a entre vous et ce que je dis.
Bien, les 40 articles d'en parler, ça passe. Non, mais c'est vrai qu'en dehors du canevas ésotérique, il y a une comparaison qui, moi, m'est venue immédiatement à l'esprit. Je ne sais pas si vous agréerez la dite comparaison, mais après tout, pourquoi pas. On pense, et pas simplement à cause du titre, mais pour tous le côté mondain et parisien, on pense beaucoup au Lys rouge d'Anatole France, que vous citez d'ailleurs très brièvement.
Donc vous voulez dire que le livre est mondain et parisien ?
Non, je dis qu'il
vous
y a...
Vous le dites ou vous le dites pas ?
Je dis qu'il y a un aspect, ça veut rien dire. Il y a un aspect...
Ça veut dire.
Parce que ça dépend de ce qu'on en fait. Chez Proust aussi, c'est mondain et parisien.
La question n'est pas là.
La question n'est pas là. Mais là, je pense effectivement
Alors la question, mettez-vous d'accord là, tous les deux.
Non, c'est à lui de se mettre d'accord avec lui-même quand il porte un jugement.
Alors lui, c'est Gourdon.
On assume son jugement, on n'assume pas. Moi, je l'ai assumé.
Alors, la question, quelle question vous posez à Philippe Solers ? Son livre est-il mondain et parisien ?
Est-ce qu'il le situe dans l'affiliation de Joyce ? Est-ce qu'on peut passer tout à fait...
Joyce ou Anatole France ?
De Ulysse au Lys.
Oui. Alors, Philippe Solers.
Je ne dirais pas bof.
Il peut être beaucoup plus féminin, d'ailleurs, aussi, Anatole France.
Je ne dirais pas bof, mais...
Particulièrement ce livre-là.
D'abord... Non, là, vous avez cité un fragment de dialogue, vous avez été frappé par ça, c'est votre droit. C'est en effet la...
Soyons freudiens, comme vous le dites quelque part.
Oui, mais c'est un dialogue, il faut pas tirer des phrases du contexte comme ça.
Ah si, il faut les tirer du contexte.
Bon, alors, vous l'avez fait, maintenant je les remets dans leur contexte.
Allez, Philippe,
c'est... Et donc, c'est
un... Mais il faut passionner les débats.
C'est un dialogue entre Leslie, qui est l'ami du narrateur, qui lui dit, comment, vous n'avez pas une machine à traitement de texte ? Et alors, il dit, non, j'écris tout à la main, et elle lui dit... Ah, ah, qu'est-ce que vous êtes, vieux jeu. Donc il est évident que c'est très ironique et que, au contraire, je crois que ce qui est très moderne, très futur, c'est les gens qui écriront à la main, alors que tout le monde se sera mis ce préservatif inutile qu'est la machine à traitement de texte avec laquelle on ne peut pas faire de la littérature. Alors quant à l'Ulysse de Joyce, il y a beaucoup d'histoires irlandaises qui reviennent à travers ce livre, parce que le narrateur, il se trouve que par hasard, ce qui d'ailleurs est vrai, j'ai découvert ça un jour dans ma maison de campagne, en retournant un portrait, et j'ai vu que j'avais une arrière-grand-mère irlandaise. Vous voyez, ça, oui, mais vous auriez pu le lire si vous l'aviez lu. Et donc, il y a ce thème qui revient, parce que, par exemple, ça, le fait de faire allusion à l'Irlande, ramène un personnage qui fascine beaucoup le narrateur, qu'il essaye toujours par séduction de vendre en quelque sorte à son héroïne qui l'achète. C'est ce personnage énorme qui s'appelle Joe Fernand, n'est-ce pas, qui a posé pour un tableau magnifique qui s'appelle la belle Irlandaise de Courbet. Courbet qui est par ailleurs le peintre des femmes entre elles, et je voudrais souligner que justement un des problèmes, une des épreuves que le narrateur a sur sa route, c'est qu'il le dit plusieurs fois, il est fort probable que la femme en effet à qui il s'adresse préfère plutôt les femmes aux hommes.
Jean-Pierre Salgas.
Oui, à propos de l'Irlandaise, il y a une phrase qui m'a frappé et qui, je crois, revient à deux reprises. Enfin, je crois que c'est à propos de Leslie. Le narrateur dit impossible de la rejoindre dans un roman anglais. Et à plusieurs reprises, enfin.
Non, c'est à propos de Rennes qu'il dit.
Oui,
ça.
C'est à propos de. Ah bon,
c'est à propos de Rennes. C'est une femme d'affaires et quand elle a envie de.
Impossible de la rejoindre dans un roman anglais. Alors, je voulais vous demander quelle est la différence entre le roman français tel que vous le pensez aujourd'hui, probablement dans la lignée de Laclos plus que de Joyce, etc. Oui. Et qu'est-ce que vous entendez là par roman anglais ?
Les romans anglais, vous savez que ce sont ces merveilleux romans où des dames se réunissent pour prendre le thé, prendre des petits gâteaux, et toutes les allusions qui pourraient être de mauvais goût sont systématiquement supprimées. Vous avez bien vu Virginia Woolf ne pouvait pas lire l'Ulysse de Joyce à cause précisément de ces obscénités, des obscénités catholiques qui ne conviennent pas au puritanisme anglo-saxon. C'est donc tout simple, un roman anglais, c'est là où il ne se passe rien de ce qui préoccupe le narrateur de ce livre, qui est dans la traduction en effet française, et c'est pour ça que c'est un livre en effet très français.
Oui, ce livre se présente d'abord comme une fausse analyse, puisque une analyse par écrit.
C'est le contraire d'une psychanalyse. Oui. Elle est en analyse, l'héroïne, un peu comme tout le monde aujourd'hui. Elle fait une analyse et lui, il renverse la situation, parce qu'elle paye quelqu'un pour raconter. Mmh. Alors que de son côté.
Ça, c'est un très beau fantasme.
C'est un fantasme réalisé dans la narration. Oui.
Donc ce roman commence comme une fausse analyse, et puis disons avant les 50 dernières pages, c'est un roman policier.
Oui.
Mais alors,
il y a des éléments de roman policier, coup de téléphone anonyme, c'était votre volonté de jouer dans tous les registres du romanesque.
Parce que je crois que toute affaire amoureuse un peu passionnée déclenche une atmosphère un peu policière, à un moment ou à un autre.
Oui, mais alors, tout compte fait, le détective se trouve en position de chien limier qui va découvrir le trésor, qui sera la truffe
donc, cachée, oui.
de Rennes. La truffe, ouais. Entendez, puisqu'il faut appeler un chat, l'anus.
Il va la retourner, en quelque sorte, sur elle-même. Oui. Là, ce qui me frappe, c'est ce que j'essaye de faire dans des passages comme ceux-là, c'est ce que tout le monde... Oui. Ne réussit pas à voir dans certains tableaux de Picasso qui m'intéressent beaucoup, qui sont les odalisques, vous savez. Parce que Picasso est le premier peintre à avoir pratiqué l'omnispection, c'est-à-dire voir de partout à la fois. C'est-à-dire, c'est tout simplement les représentations. Il est le premier à faire ça en peinture, ça m'intéresse beaucoup. Il a fait des femmes qui sont à la fois couchées sur le dos et sur le ventre. C'est ça, les odalisques. C'est pour ça qu'elles ont... Tout l'art de Picasso tient ça. D'habitude, vous avez des présentations frontales, elles sont de dos, elles sont de face. Oui. Mais lui, quand il fait une femme, et surtout à la fin de sa vie, c'est de plus en plus manifeste, il les fait à la fois de dos et de face.
Voilà.
C'est pour ça qu'il ne faut pas...
Elle est à la
c'est pour
fois
ça que
ce
demi-anus, puisque... c'est tout à la fois, n'est-ce pas? C'est les
elle
deux
est
à la
face
fois.
À un miroir. Hein
oui, elle est face à un miroir aussi.
C'est logique que ce soit.
Excusez-moi, je suis très content de mes dernières séquences, justement, de ma narration, parce qu'il peut passer. Il y a plusieurs séquences très très précises, je crois qu'elles sont assez bien faites. Et alors, en effet, c'est devant, c'est derrière, c'est partout à la fois. Voilà.
Oui. Bien, on va en rester là pour le roman, donc, Le Lys d'or, publié chez Gallimard. Philippe Solers, toujours avec Carnet de nuit chez Plon. C'est une nouvelle collection. Alors, ben oui, c'est un carnet, le carnet sur lequel vous notez beaucoup de choses, des lectures. Alors, on trouve Proust, on trouve Lautréamont, Nietzsche, on trouve des auteurs moins connus comme Guy Debord, dont on a parlé à propos de son livre, Commentaire sur la société du spectacle. C'est un livre que vous avez particulièrement apprécié.
Oui, c'est un livre absolument magnifique qui décrit, alors je crois avec une grande précision, la société dans laquelle nous sommes maintenant complètement immergés, qu'on peut dire planétaire, hein, c'est-à-dire... il faut le lire, ce livre, ce commentaire sur la société du spectacle. C'est vraiment un livre qui m'intéresse parce que c'est d'un style justement très, très, très frappé, extrêmement percutant, très classique. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'arguments philosophiques, de démonstrations économico-philosophiques comme il y en a dans tous les essais.
Presque des aphorismes. Enfin,
oui, c'est ça. C'est la grande tradition moraliste. Voilà. Et je crois que ça en dit plus sur la réalité du monde que des gros livres inutiles.
Alors, donc, dans Carnet de nuit, il y a vos lectures, mais il n'y a pas que vos lectures, il y a un petit peu tout. C'est des notes que vous prenez comme ça.
Je prends beaucoup de notes, et là, c'est un livre composé à partir de notes, mais d'autres notes me sont venues en reprenant d'anciennes notes, c'est-à-dire que c'est la forme, c'est comme une sonate, c'est-à-dire que c'est une forme musicale. Ça m'a amusé de faire des passages courts, des aphorismes un peu plus longs, etc. Voilà.
Donc c'est pas exactement le journal.
C'est de la musique. Non, pas du tout. Un journal, oh là là, la barbe, les journaux. Non, non. Ouais. C'est une forme sonate faite à partir de notes, c'est-à-dire des épiphanies, comme aurait dit notre Joyce, des moments de vie intense et aussi des réflexions à propos de certaines lectures, puis des situations qui se sont trouvées dans ma vie.
Oui, à propos de ce carnet composé, comme vous l'avez dit, effectivement, vous affichez que ce n'est pas du tout des carnets, enfin, vous ne livrez pas vos carnets intimes au public, ce qui est d'ailleurs le principe, a priori, moi, m'agaçait. Enfin, je veux dire, les carnets intimes, c'est fait pour rester intime et pas pour être publié. Et que, justement, il y a une sorte presque de jeu ou de provocation d'abord de parler de cette société du spectacle de Guy Debord, m'a-t-il semblé, puisque c'est mettre en spectacle son intimité ou sa vie privée d'une façon... d'une façon limitée, il y a toutes sortes de jeux avec le lecteur. À un moment, vous citez Baudelaire et vous dites alors ça vous a amusé. Donc, faisant absolument d'emblée.
Je cite des vers de Baudelaire sans dire que c'est de Baudelaire.
Hein, oui, voilà. Là, quand même, si on ne les reconnaît pas, c'est pas.
Non, mais pour mettre l'accent sur le fait qu'on peut parler de Baudelaire sans lire sa poésie. Oui. Alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est sa poésie.
Mais donc, la question, c'était comment vous avez joué avec le genre. Puisque c'était quand même, c'est un exercice de style presque, qui était se montrer sans se montrer, faire comme si on se montrait, mais tout en montrant bien qu'on ne se montre pas. Enfin, parce que le genre, quand même, est suspect, je trouve.
C'est-à-dire, je le trouve en général maltraité. Et si on le traite, je crois qu'on peut arriver à des effets intéressants, d'allusions, de retenue, de critiques très, très précises de la société dans laquelle nous sommes, dont je suis un acteur spectaculaire.
Et qui, mais beaucoup de gens vont être déçus à la lecture de ce carnet, parce que c'est très simple.
Oui, et alors
Non, pas du tout. Je ne pense pas que beaucoup de gens sont déçus, pour la simple raison que, justement, le carnet, quand même, contient beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'acteur spectaculaire. Et par contre, ce qui est effectivement intéressant, c'est la dualité. C'est-à-dire, le carnet rentre à l'intérieur de la rotation accélérée du spectacle à laquelle vous participez. Et d'un autre côté, je crois que beaucoup de gens sont surpris, justement, ce qui, moi, pas surpris de l'allusion à Debord, c'est-à-dire du fait que vous êtes dans le spectacle, je dirais, en voyeur, enfin, en Proust, comme vous pouvez le dire à d'autres moments, y participant, mais, je dirais, n'en pensant pas moins, du moins, avec ce projet éthique avoué, enfin, d'écrire le tourbillon du spectacle. Et bon, simplement, Debord et vous occupez, à partir d'une même éthique, des positions diamétralement opposées. On ne peut pas rêver, bon, lui...
Debord n'écrit pas de roman.
Voilà, il n'écrit pas de roman.
J'ai besoin d'être sur la scène parce que c'est
voilà,
le lieu
il n'écrit pas de roman, de lui ne circule qu'une seule photo, de vous des milliers, ce qui revient strictement au même. Enfin bon, je trouve très intéressant que vous vous placiez par rapport à lui, ce qui effectivement va surprendre les gens qui pensent que chacune de vos photos s'explique par la simple... l'exhibitionnisme, je sais pas trop quoi. Enfin bon. Et donc ça, c'est très intéressant, cette...
Nadine.
Oui, moi, je voulais juste vous poser une question sur une petite phrase qui m'a laissée rêveuse. Sur la phrase que tu devras barrer si tu publies ce carnet, trop de malentendus, je dois tout à la prière. Alors, d'abord, ça m'a laissée rêveuse puisque vous ne l'avez pas barré, tout en disant que vous auriez dû la barrer. Et puis aussi parce que c'est évidemment... Enfin, ça m'a fait penser au journal de Queneau, dont on a beaucoup parlé, et puis avec ces révélations sur Queneau allant prier, enfin... alors que tout le monde le pensait profondément athée. Bon, on ne pense pas ça de vous, puisque vous êtes vous n'en parlez pas comme ça. Enfin, cette phrase, quand même, pourquoi d'abord avoir eu ce besoin de dire que vous auriez dû la barrer, de ne pas la barrer, Et c'est,
c'est une façon de dire en étant bien conscient que ça ne peut provoquer que des malentendus, que personne ne peut comprendre ce que je dis là, mais je le dis quand même parce que c'est vrai.